France Inter, le 18-20.
Voilà un petit peu plus d'une semaine que Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement en estimant ne pas être suffisamment soutenu dans ses fonctions. « Je me surprends tous les jours à me résigner, à m'accommoder de petits pas », avait-il dit ici sur France Inter en espérant que sa démission allait provoquer un sursaut. Depuis, il y a eu effectivement des réactions dans le monde politique et économique et au sein de la société civile. Il y a eu plusieurs appels d'artistes et de personnalités pour sauver la planète, un appel de chercheurs, d'économistes, de syndicalistes, de spécialistes du climat pour un véritable plan d'investissement. Investissement, mais aussi un appel à des rassemblements demain dans plusieurs villes de France à l'occasion de la Journée mondiale du climat, preuve que ce sujet intéresse les citoyens, même si Nicolas Hulot s'est senti bien seul dans son action. Alors ce soir, on va essayer de voir pourquoi et où ça coince, pourquoi les choses avancent aussi lentement alors qu'il y a urgence. On va évoquer la situation politique, bien sûr, et les défis qui attendent le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, mais on va surtout se demander ce qu'il en est de notre modèle économique. Le libéralisme est-il compatible avec la préservation de l'environnement? Qu'en est-il de la sacro-sainte croissance après laquelle nous courons? Qu'en est-il de cette logique productiviste qui épuise les ressources? Comment faire pour verdir l'économie? Bref, notre modèle économique actuel est-il compatible avec les objectifs de l'accord sur le climat? Avec nous pour en parler, Laurence Tubiana, bonsoir. Ancienne négociatrice en chef lors du sommet de Paris en 2015, aujourd'hui présidente de la Fondation européenne pour le climat. Avec nous également l'économiste Daniel Cohen, dont l'avant-dernier livre publié chez Albin Michel s'intitulait « Le monde est clos et le désir infini ». Rebonsoir Daniel Cohen. On attend bien sûr vos appels à vous tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et pour démarrer cette émission, nous allons prendre au téléphone Maxime Lelong. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Nicolas Hulot, en démissionnant, avait dit espérer un sursaut. Il se trouve que vous, vous l'avez écouté et vous avez relayé les attentes de Nicolas Hulot et vous avez, avec d'autres, participé à cet appel demain, à des marches pour le climat. Comment avez-vous fait, Maxime Lelong? Je précise que vous êtes un citoyen qui a pris cette initiative, c'est ça? Vous avez ouvert une page Facebook?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai ressenti l'appel de Nicolas comme quelque chose d'explicite. J'ai même pas eu l'impression de lire entre les lignes. Et en fait, je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui a déjà été fait. Je suis allé voir sur Facebook si quelque chose avait été créé, s'il y avait une manifestation ou une marche qui s'organisait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Et donc, j'ai créé cette marche pour le climat sans me douter un moment qu'elle prendrait autant d'ampleur.
Et qu'elle rejoindrait peut-être aussi l'appel de plusieurs organisations. Il faut rappeler quand même qu'ATTAC, Oxfam, les Amis de la Terre et bien d'autres appellent à une mobilisation demain. Mais en ce qui vous concerne, est-ce que cette interview de Nicolas Hulot a provoqué quoi? Une prise de conscience?
Moi, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas un problème d'homme, que c'était pas l'échec de Nicolas Hulot personnellement, mais que c'était un problème de système, parce que moi, ce qui m'a profondément bouleversé dans la démission, dans ce qu'il a dit lorsqu'il a démissionné à la radio, c'est qu'il disait « je suis dans un gouvernement où le climat n'est pas une priorité, où la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement n'est pas une priorité, et donc je n'arriverai pas à mener mes missions à bien parce que personne ne m'aide à faire en sorte que mes combats aboutissent. »
Il souhaitait justement avoir du monde derrière lui qui puisse pousser pour toutes ses priorités. Vous, sur votre page Facebook, qu'est-ce que vous avez? 25 000 participants confirmés pour demain, c'est ça? 130 000 clics, vous en êtes où là ce soir?
C'est ça, il y a 25 000 personnes qui ont confirmé qu'elles venaient demain et plus de 110 000 qui disent qu'elles viendront, mais qui n'ont pas confirmé à proprement parler. Donc voilà, nous on estime qu'on ne sera pas moins de 25 000. La dernière marche pour le climat organisée à Paris, c'était en marge de la COP 21 en 2015. Il y a 40 000 personnes qui sont mobilisées. Bon, c'est une marche qui avait été organisée pendant un an. Nous, on a eu une semaine.
Bravo Maxime Lelong pour cette initiative. Je précise qu'il y a toutes les informations aussi sur ariseforclimate.org parce qu'il y a déjà des organisations qui proposent des initiatives. Demain, des initiatives, il y en a dans 90 pays. Il faut quand même le signaler. Merci beaucoup Maxime Lelong. Laurence Tubiana, vous qui avez participé à cette COP21, qui avait été une des organisatrices, gagner la bataille des idées et entendre des citoyens qui se mobilisent comme ça, c'est quelque chose d'essentiel?
C'est très important. Et d'ailleurs, demain, je vais marcher aussi, comme beaucoup de citoyens dans le monde. On attend des centaines de milliers de personnes dans le monde entier pour le climat. Lorsque j'ai préparé cette négociation de Paris, j'ai toujours pensé que c'était pas une affaire de gouvernement, c'était une affaire de société. Et qu'il fallait absolument que les citoyens, mais aussi les maires des villes, les responsables d'entreprises qui sont sérieux, participent à ça. Et qu'on ne puisse pas dire que cet accord de Paris, c'est un papier, un document signé entre des gouvernements qui vont le respecter plus ou moins sérieusement, j'espère sérieusement tout de même, mais que en fait, ça va être porté par toutes sortes d'acteurs qui vont dire « c'est notre accord, nous en faisons partie ». Et j'en veux pour preuve l'extraordinaire réaction, après la décision de Donald Trump de partir de l'accord de Paris, du mouvement qui s'est constitué aux États-Unis, d'universités, de citoyens, de gouverneurs d'États américains qui ont dit ben, « peut-être que l'administration de Washington sort, mais nous, on reste ». Et c'est vraiment c'est vraiment ça qu'il faut obtenir.
Et je précise que vous-même, Laurence Dubiena, vous avez co-signé un appel dont on parlera évidemment dans cette émission pour libérer l'investissement vert. Daniel Cohen, avant de passer la parole à un autre de nos auditeurs, François de Rugy, le nouveau ministre de la Transition écologique, qui était ici mercredi matin, a dit qu'il était tout à fait possible de concilier écologie et économie. Je voudrais savoir en deux mots comment vous réagissez à une telle affirmation. C'est une évidence pour vous ou pas?
Bah, à ce niveau de généralité, on peut qu'être d'accord. Oui, si on fait les investissements qu'il faut, si on met en place la fiscalité qu'il faut, si on explique qu'il y a des choses qu'il faut arrêter de consommer et d'autres qu'on peut se permettre de consommer, oui, il y a une voie économique possible, heureusement, qui soit compatible avec le respect de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Simplement, je pense que cette mobilisation générale dont parlait Laurence Dubiena est évidemment essentielle. Je suis pas sûr qu'on ait compris l'importance des efforts qui doivent être faits. On pense qu'il suffit de pas jeter ses déchets et puis optimiser sa consommation d'électricité. Bon, j'espère que je ne vais pas dire des horreurs, mais pour éviter que la planète devienne une étuve, pour reprendre la formule de Nicolas Hulot, il faut réduire les émissions de CO2 de moitié à l'échelle de la planète, et pour un pays comme la France, dans un rapport de 1 à 4. C'est beaucoup. Ça se fait tout de suite, c'est d'ici 2050. L'année dernière, en France, les émissions de CO2 ont continué de croître de plus 3%.
Ce que au Danemark, ils ont baissé ce matin, oui.
Et qui disait ça ?
Ce matin sur France Inter.
Voilà, oui. Alors, très bien, parfait. Au Danemark, ils ont baissé, vous le disiez aussi, de 6% cette année. Donc ça donne une mesure des choses qu'il faut faire. Et donc on peut dire l'économie massacre. C'est pas ça le sujet. C'est vraiment faire un schéma crédible, important, chiffré. Donc
comment on fait ? C'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Mickaël qui est en ligne. Bonsoir, Mickaël.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Bonsoir et merci de prendre mon appel. Alors plus qu'une question, c'est une contribution. Moi je vais m'inscrire complètement faux avec ce que vient de dire votre invité. Je pense que l'économie de marché est complètement incompatible avec la question écologique. Premier point, la croissance. Hein, pour faire du PIB, il faut une production qui n'est autre chose qu'une transformation d'une ressource grâce à de l'énergie. Et pour qu'un PIB soit croissant, il faut donc transformer de plus en plus de ressources avec de plus en plus d'énergie, ce qui, dans un monde limité, est physiquement impossible et conduit à l'épuisement des ressources, inévitablement. Deuxième point, l'obsolescence programmée, qui est nécessaire à ce modèle économique pour éviter la saturation des marchés. Et si par malheur nous obtenons l'abondance dans une production donnée, la destruction permet de maintenir les cours du marché. Je vous laisse donc imaginer l'impact sur le gaspillage des ressources et la pollution.
Merci.
Troisième point, j'ai pas fini. L'économie de marché, c'est aussi la guerre économique. Peut-on avoir des considérations écolo en temps de guerre ? Je pose la question. La paix est une condition préalable au développement harmonieux des sociétés. Nous n'avons d'autre choix que de signer l'armistice économique. Et c'est dans ce sens que j'étais allé porter plainte contre l'économie de marché en 2003 au commissariat de Limoges et que j'avais tenté de faire connaître la proposition distributiste révisée à la sauce écolo. Car sans proposition autre que l'économie de marché, nous ne pourrons pas sortir de cette économie mortifère.
Merci.
Je veux aussi profiter de l'antenne,
oui, Mickaël,
pour lancer un appel à Monsieur Hulot. Je suis prêt à remettre mon costume de militant pour porter cette idée, mais j'ai besoin d'encouragement. Car tout seul, que puis-je, moi, petit ouvrier agricole ? Et j'autorise l'antenne à lui donner mon contact. Merci.
Merci beaucoup, Mickaël. En tout cas, vous aurez été entendu ce soir sur l'antenne de France Inter. Plusieurs points, on va les prendre peut-être dans l'ordre. La question de la croissance, Daniel Cohen, je me tourne vers vous. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui vont dans ce sens au standard de France Inter ce soir et sur notre site. Est-ce que la croissance après laquelle on court, elle est compatible avec le fait de préserver notre planète ?
La croissance telle qu'on la connaît maintenant, bien sûr que non. Ça, y a pas, il peut pas y avoir de discussion possible. Si les Chinois devaient continuer de croître au rythme actuel, même avec une baisse attendue, mais en important nos modes de consommation, il y a une statistique que je trouve effrayante, c'est si simplement leur consommation de papier par tête devait rejoindre celle des États-Unis, il faudrait couper les deux tiers des forêts. Donc, c'est sûr que non. Et le livre que vous citiez, Le Monde éclos et le désir infini, partait exactement de cette idée que notre addiction à la croissance nous rend aveugles au risque que la croissance actuelle le type de croissance actuelle nous fait courir. Dans ce livre, je faisais un parallèle pour faire comprendre ce point. Pendant des millénaires, le type de croissance que les humains ont connu, c'était ce qu'on appelle la croissance démographique. C'est-à-dire, jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a jamais eu de croissance du revenu par habitant, il n'y a eu que de la croissance du nombre d'habitants. Et Malthus avait énoncé une loi célèbre qui expliquait pourquoi c'était inéluctable. Et tout d'un coup, sans que ça vienne, sans que ça soit prévu, au XIXe siècle, on a eu une transition démographique qui a fait que les populations européennes, par exemple, ont cessé de faire des enfants dans les proportions qu'ils faisaient avant. On est passé de l'ère de la quantité à quelque chose qui, du point de vue des enfants, s'est apparenté à la qualité. Je pense qu'il faut une mutation de cette nature au XXIe siècle par rapport à la croissance. Passer de l'ère de la quantité à l'ère de la qualité. Une fois qu'on a dit ça, on peut continuer de croître dans le domaine des connaissances scientifiques, de la santé, etc. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent progresser. Mais oui, la croissance quantitative au sens où on l'entend jusqu'à présent ne peut pas continuer. Alors maintenant, est-ce qu'il faut renoncer à l'économie de marché ? Vaste question. L'économie de marché, ça veut dire qu'on est propriétaire de son appartement, de son travail. Est-ce qu'il faut renoncer à ça ? C'est vraiment un grand débat philosophique. Je ne crois pas qu'il soit de même nature que celui dont on parle quand on parle du type de croissance et ce qu'il faut faire pour rendre impossible que ça continue sur les rythmes et les tendances actuelles. Mais je suis ouvert évidemment complètement à la discussion, mais je pense qu'il faut graduer un peu la manière dont on répond à cette urgence, évidemment.
Comment vous répondez-vous, Subiana, Mickaël ?
C'est le moment de justement d'ouvrir un peu tous ces débats économiques et de pas tous les coller les uns sur les autres, parce que sinon on ne pourra pas agir. Et l'important, c'est quand même à la fois de penser de vers quoi on va et d'agir. Et autant, et je crois que vous avez tout à fait raison, la croissance telle qu'elle est, elle ne nous mène nulle part. Elle mène pas à plus d'égalité. Elle mène pas effectivement à un développement équilibré avec les ressources de la planète qu'on a. Et donc la réponse est bien claire, c'est non. Après, avec quel système on vit ensemble ? Qu'est-ce qu'on arrive avec ? Quel système économique on peut produire des biens communs qui devraient occuper de plus en plus de place par rapport à cette appropriation individuelle, cette surconsommation, cet excès de consommation ? Je crois que personne n'a vraiment de réponse sur comment on fait. Mais ce qu'il y a d'important, c'est probablement à ce stade de sonner l'alarme, parce que tout de même on a très peu de temps pour réagir, et de se dire, au fond, à quel bien commun on tient absolument ? Et comment est-ce qu'on va les produire tous ensemble, ces biens communs ? L'air propre, des forêts qui soient protégées, une énergie qui devienne propre aussi, et puis cet équilibre de vie qu'il faut rechercher avec la nature. Donc je crois que c'est une formidable période, elle fait peur parce que ça va vite, la détérioration va vite, et en même temps c'est une formidable période d'innovation, d'idées et de débats économiques. C'est vrai qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas ouvrir le débat sur la croissance. Là, on est vraiment devant le mur, on est obligé de l'ouvrir. Donc je pense qu'il y a plein de façons, et je suis sûre que là où vous êtes, surtout dans l'agriculture, c'est vraiment le moment de l'ouvrir.
Daniel Cohen, pour reprendre ce que disait Mickaël, il parlait de guerre économique. Alors, sans vouloir remettre en cause l'économie de marché, comme vous disiez, mais le capitalisme, c'est pas un monde de bisounours. On cherche des profits et tous les moyens sont bons pour les trouver. Ouais, ces profits, comment vous faites pour
éviter ça ? C'est pour ça qu'il faut une volonté politique. C'est pour ça qu'il faut une volonté politique au niveau d'abord national, c'est-à-dire être capable d'investir dans ce qui est nécessaire pour qu'on vive et qu'on oblige à vivre dans un monde qui soit propre, qui vise le l'objectif de zéro émission de carbone. C'est la raison pour laquelle il faut une coopération internationale très forte qui impose aux États, et pas simplement leur demande, bon, de faire ce qu'ils veulent, mais enfin qu'ils soient capables. Et on sait que c'est difficile, et Laurence Dubiana sait à quel point c'est difficile d'avoir autour de la même table des Chinois, des Indiens, des Américains, mais il faut converger vers ce monde. Et c'est la raison personnellement pour laquelle je pense que l'Europe est un acteur indispensable, parce que si on n'a pas une puissance qui au moins soit capable de porter cette exigence-là, parce que ça fait partie de son histoire et de ses valeurs humanistes, on n'y arrivera jamais. Mais est-ce que l'Europe, dans l'état politique où elle est, sera capable de porter ça? C'est ça, malheureusement, avec la montée des populismes dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, malheureusement, dont on peut douter aujourd'hui. Donc, on ne va pas dans le bon sens du point de vue politique. Mais je pense qu'il faut d'abord une volonté citoyenne, une volonté politique, et puis se donner tous les moyens nécessaires pour réguler le capitalisme, pour l'obliger à aller dans cette voie-là. Est-ce qu'il faut aller haut? Il faut penser l'au-delà du capitalisme pour ça. C'est une discussion très intéressante en soi, mais malheureusement, je pense qu'elle risque, cette discussion-là, de nous faire perdre du temps par rapport à l'urgence d'agir.
En tout cas, la mobilisation citoyenne, elle existe au Standard de France Inter, je peux vous le dire. C'est l'embouteillage ce soir. On va prendre Dominique maintenant en ligne. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Je suis parfaitement d'accord avec les commentaires de Michael et ceux de Daniel Cohen. Simplement, le politique, nous sommes dans un monde mondialisé sur le plan économique, c'est le capital qui est en tête, on est dans l'immédiateté, le problème de l'environnement il est mondial, et la France seule, même l'Europe seule, on ne pourra rien faire. Et je prends pour exemple ce qu'on appelle un projet à Gonesse, sur la commune de Gonesse, dans l'est du département du Val-d'Oise. Il y a un projet qui s'appelle Europa City. La totalité des gens de Gonesse s'opposent à ce projet. Le commissaire enquêteur, dans le cadre du PLU, le plan local d'urbanisme, a refusé ce projet. Et vous connaissez bien le résultat. Les politiques, à travers le préfet, viennent donner l'autorisation de créer ce projet qui s'appelle Europa City. Sur 800 hectares, il y a 500 hectares qui vont être stérilisés. Il y avait même un projet, tenez-vous bien, d'une piste de ski indoor, c'est-à-dire dans un bâtiment comme à Dubaï. Malheureusement, on est dans le mur. Et on est dans un monde mondialisé, l'environnement est mondialisé. Je suis très, très pessimiste.
Merci Dominique pour cette intervention Europa City. On aura l'occasion d'en reparler effectivement de ce projet hôtelier, parc de loisirs, etc. Parce qu'il y a aussi la question de l'emploi, de l'immédiateté, du court terme, qui fait que souvent les élus finissent par donner leur accord. Laurence Dubiana, comment on fait par rapport à ça?
On peut peut-être être un peu plus imaginatif comme genre d'emploi, non? Parce que les grands parcs...
Il y a des contre-projets, hein, je le précise aussi.
Voilà, hein, oui, sur, les grands parcs Disneyland, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça entraîne un dynamisme économique fantastique. Ce problème de stérilisation des terres agricoles, c'est quand même, c'est pas seulement qu'on perd des terres agricoles, on accroît les risques d'inondation. Enfin, je reprends pas tous les détails, mais enfin, ça me semble être un projet aujourd'hui, alors que quand on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, tous ces grands malls qui ont été, ces grands centres commerciaux qui ont été construits il y a 10 ou 15 ans, ils sont vides, on essaye de faire quelque chose, enfin, ça correspond pas à l'évolution de la société. Et c'est peut-être ce que je trouve le plus frappant. C'est que, à la fois, et c'est pour ça d'ailleurs que la mobilisation des citoyens, elle est essentielle. Parce qu'il faut quand même donner aux politiques, d'abord le message et le courage de faire autrement. Sinon, l'inertie, on fait comme avant, on fait des grands projets, les mêmes, c'est facile. Les gens savent faire des projets très vite, on peut trouver plein de consultants qui vous font le projet en très rapidement. C'est ce qu'on sait faire. C'est facile de faire un plus, en tout cas de mobilisation financière d'un grand projet, et le reste est beaucoup plus innovant. Et je trouve que cette idée d'innovation dans le système économique tel qu'on l'a, je crois qu'il peut se décoincer à partir du moment où il y a cette fameuse mobilisation. Je suis pas une pessimiste, moi, donc j'aime bien me lever le matin et me battre pour tout ça, mais je pense que c'est vrai que là, il faut une mobilisation de la société, parce que on n'arrivera pas à obtenir des responsables politiques et économiques cette espèce de tournant qu'il faut pouvoir prendre.
François de Rugy, au ministère de la Transition écologique et solidaire, vous connaissez son parcours, vous pensez qu'il pourra faire mieux que Nicolas Hulot?
Mais en tout cas, ce qu'on attend, et je reprendrai ce que disait Daniel tout à l'heure, on attend de ce gouvernement, et de François de Rugy bien sûr, une feuille de route pour savoir comment est-ce qu'on va, pour la France, puisqu'on s'y est engagé, à avoir cette neutralité carbone, à être à zéro carbone en 2050. Ça demande des choses très précises. Qu'est-ce qu'on fait sur les transports? transport pour passer. Et qu'est-ce qu'on arrête, par exemple, de dépenser 8 milliards d'euros pour en subvention sur les énergies fossiles, en particulier sur les transports? Est-ce que on sait ce qu'on fait en matière de rénovation des bâtiments, notamment pour les ménages pauvres? Il y a quand même 5 à 7 millions de ménages qui souffrent de précarité énergétique. Je pense que ça, c'est un bon investissement public.
Il faut refaire un Grenelle, en quelque sorte. Faut un Big Bang, comme disait Pascal Canfin l'autre jour.
Un Grenelle suivi d'action, mais il faut un plan. Et vous savez, quand on n'a pas... Un plan ne fait pas tout, hein. Mais si on n'en a pas, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Et je trouve que là, on a une transformation de l'économie devant nous, en France, mais tous les pays européens vont d'ailleurs, sont en train de plancher ou vont plancher sur la transformation de leur économie. C'est la même chose pour l'Inde, la Chine, le Brésil. Il faut que dans cette discussion internationale, on se dit à quoi ça ressemble l'économie zéro carbone en 2050, comment on va se transporter, comment nos villes, à quoi ça va ressembler, quelle agriculture. Il faut qu'on mette ça sur la table. Moi, j'attends de ce gouvernement qu'il mette une feuille de route. Alors après, elle sera respectée, il y aura des difficultés, peut-être pas. On va se poser des questions, des modèles de financement de cette feuille de route. Mais au moins, on sait où on va. Et les citoyens. Et après, débattons. Au plan
débattons,
public,
jugeons,
débattons de, ce, de cette feuille de route.
Isabelle nous appelle à son tour, elle est au standard de France Inter. Bonsoir Isabelle, vous appelez de Toulouse, c'est ça?
Oui, bonsoir, merci pour vos émissions. Alors, moi je suis aussi plutôt pessimiste. En même temps, je me dis qu'on peut peut-être avoir des bonnes idées, mais quand on entend les infos, la première chose qu'on entend, c'est la bourse. On se félicite de l'augmentation des passagers pour Air France. Par exemple, on se félicite de l'augmentation des ventes de voitures et tout ça. Du coup, moi, je me dis, si tout le monde se mettait à rouler en vélo, vous voyez, ça...
Ouais, ça, c'est un petit peu pour les journalistes aussi. Hein, faut qu'on change notre logiciel. Mais vous avez raison, faut qu'on se pose des questions.
Ça serait, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait si tout d'un coup, l'État disait, on divise par, 4, le nombre de navettes Paris-Toulouse. Il y en a 2 par demi-heure, hein, pour à peu près pour info. Donc, si tout d'un coup, on disait, on divise les navettes Air France, là, on les divise par 4. Et du coup, moi, là-dessus, je suis assez pessimiste parce que l'économie pollue. Enfin, vous voyez, on a plein d'entreprises en France. Nous, on est Air France et PS1, et c'est des trucs polluants. Le vélo, ça pollue pas, mais pas de chance, ça rapporte pas. Mais après, je me dis, du coup, que l'écologie, si on veut que ça marche, eh ben, il faut que ça rapporte. Et du coup, moi, je me dis, je sais pas, comme je suis aussi un peu bretonne, je me disais, voilà, si tout d'un coup, une région comme la Bretagne décidait de ne produire qu'un porc label bio, je pense que ça pourrait rapporter de l'argent. Et puis, ça serait pour le coup complètement écologique.
Merci beaucoup, Isabelle, pour cette intervention. Daniel Cohen, sur ce qu'elle disait tout d'abord sur Air France, PSA, nos entreprises, nos emplois, c'est vrai ça? C'est difficile là-dessus?
Non, mais franchement, le chantage à l'emploi lié à l'industrie, etc., il n'est pas acceptable. La part des emplois dans l'industrie fond, on est en pleine désindustrialisation et c'est ça qui fait partie, en grande partie, de la solitude sociale de ceux qui avant y étaient intégrés, mais on peut plus faire du chantage à la perte des emplois industriels. Je crois pas. Le poids de l'emploi dans l'industrie ne le justifie plus. Les emplois qui sont créés sont des emplois de service, souvent des emplois de proximité. Et on parlait de la rénovation thermique, énergétique des logements, ça va créer beaucoup d'emplois. Donc le chantage à l'emploi, non. Mais le fait qu'en effet, je rejoins complètement ce que disait Laurent à l'instant, on ne peut plus rester dans l'abstraction de ce qu'on veut faire. On a une feuille de route très exigeante d'ici 2050. C'est demain, ça vient très vite, ces choses-là. Et on a besoin de savoir quelle est, au fond, je crois d'abord, la civilisation qu'on veut, et à l'intérieur de ce terme de civilisation, la civilisation urbaine qu'on veut. Il faut savoir, les statistiques que j'ai vues pour la dernière fois montraient que depuis 30 ans, les 2/3 des logements qui ont été construits l'ont été dans des banlieues pavillonnaires, ce sont des pavillons, les logements d'habitation. Mais bon, c'est très sympa, oui, de vivre dans son pavillon. J'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça très touchant et écolo en un certain sens, parce qu'on est dans la campagne. Mais on sait que c'est un désastre écologique, parce que les gens ont 2 voitures, le mari et la femme. C'est un désastre écologique, c'est un désastre social d'ailleurs souvent, parce que justement, il n'y a pas de densité de population. Il faut repenser la ville. Les architectes nous disent depuis très longtemps qu'il faut des villes compacts qui peuvent être vertes, dans lesquels ces questions de transport seront réglées en grande partie. Mais ça, c'est des choses difficiles à entendre. On parlait effectivement de l'industrie automobile. Bon, on doit pouvoir quand même exiger que très vite, les voitures soient toutes électriques, plutôt que simplement pas au diesel. Bon, mais il faut le dire, ça, pas simplement en généralité, encore une fois, mais avoir un plan de route crédible pour la France d'ici 2050. Sinon, ça ne se fera pas. Et si la France le fait, ça peut servir de modèle aux autres pays européens et par extension au reste du monde.
Laurence Tubiana, Isabelle disait quelque chose d'intéressant. Elle disait il faut que l'écologie, ça rapporte aussi. Mmh. Et vous, dans l'appel que vous avez signé là, cette semaine, vous demandez un grand programme d'investissement public avec des tas de points. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être dire en quoi ça consiste ou quelques exemples ?
D'ailleurs, premier point, oui, il faut que on arrive à intéresser des, parce que l'écologie, ça peut pas se décider. Enfin, c'est pas un président, si puissant soit-il, qui va gérer l'économie et décider de tout ce qui se passe. Donc, il faut bien qu'une multitude d'acteurs qui font ça aussi dans leur intérêt, y voient une possibilité de travail, d'innovation, de création, etc. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre d'incitations économiques, d'instruments économiques qui le permettent. Bon. Il y a un grand débat sur la fiscalité. Il y a des pays comme la Suède qui ont vraiment été radicaux. Ils ont changé, ils sont passés de la fiscalité sur le travail à la fiscalité sur la pollution. Et ça va très bien, de ce point de vue. En tout cas, il peut y avoir d'autres problèmes, mais vraiment... donc, il y a déjà des choses qu'il faut quand même que ceux qui polluent, les rivières qui émettent des gaz à effet de serre, se rendent compte qu'ils font subir à la collectivité un dommage et que il faudrait les inciter à réduire beaucoup. C'est intéressant. Il y a une entreprise suédoise aujourd'hui qui a un plan. Il y a un pilote qui est en train de fonctionner de produire de l'acier et une autre de l'aluminium avec zéro carbone, notamment en utilisant de l'hydrogène, en fabriquant de l'hydrogène à partir d'ailleurs d'énergies renouvelables. Bon, c'est ça l'économie, la nouvelle économie écologique. Elle va créer de nouvelles activités, ouvrir un énorme champ d'innovation technologique. Cela dit, il ne faut pas faire de fixation sur la technologie, il y a aussi le revoir quand même le mode de vie et notre excès de consommation. Ça, c'est vrai. Passer d'une consommation alimentaire qui consomme moins de viande, c'est quelque chose de raisonnable et qu'on doit discuter, débattre et on doit y arriver. Il y a une série de l'obsolescence dont parlait un interlocuteur Michael, un petit peu plus tôt. Bien sûr que c'est ridicule. Il faut absolument aller vers le recyclage. Le problème du plastique, qui est vraiment une vraie plaie dans les océans, dans les rivières, partout, dans notre corps, la solution, c'est quand même à la fois de changer de matière première, le pétrole, et de recycler à 100% ce plastique. Et on voit arriver, on voit une ville comme San Francisco dire « je vais être zéro déchet ». C'est formidable ça, et ils le font, ils sont en train de le faire. Donc il y a quand même un champ d'activité où on va trouver des instruments économiques, mais aussi des incitations et des investissements pour le faire. Quant à la tribune qu'on a signée avec Alain Grandjean, Gaël Giraud et beaucoup d'autres, c'était pour dire bon, le gouvernement, les gouvernements européens sont complètement coincés parce que investissement veut dire croissance du déficit public. Enfin, j'ai à côté de moi quelqu'un qui a retourné la question de tous les côtés pour montrer que c'était un enfermement ridicule. Mais c'est vrai que là, cet investissement pour l'écologie collectif en Europe, c'est juste nécessaire de le faire. Alors on appelle ça une autre façon de gérer la dette, sortir ça du budget. Bon, il y a plein de façons de faire, encore une fois, mais il faut se dire, ces 100 milliards dont on a besoin pour investir dans l'énergie propre, c'est absolument aberrant. Je vais prendre dernier exemple. Bill Gates, que je connais bien, et qui nous a aidés sur certains dossiers, en tout cas de la COP21, pour lui, il est en train d'investir sur quelque chose dont il verra pas d'ailleurs lui-même vivant le retour économique. Mais il se dit, l'énergie renouvelable, l'énergie propre, c'est le pétrole du 19e siècle. Moi, je veux être dans l'économie du 21e siècle. C'est juste ça, ce qu'il faut. C'est ça l'investissement public, c'est se dire comment on fait. Qui investit sur les chemins de fer aux États-Unis? Des gens qui voulaient gagner de l'argent, mais ils voyaient un peu loin.
Il va falloir changer aussi le discours. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Frédéric qui est en ligne. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci. Déjà, merci beaucoup pour la teneur de ces échanges, parce que j'avais peur un peu qu'on soit sur un bas le capitalisme, etc. Alors que moi, en fait, je pense que aujourd'hui, le marché peut être un bon levier pour faire avancer ces problématiques-là. Souvent, en fait, en tant que citoyen, on renvoie la faute sur les dirigeants. Or, en fait, aujourd'hui, sur le marché, il existe tout un tas de possibilités de consommer plus responsable, que ce soit dans le transport, que ce soit dans son équipement audiovisuel, de télécommunication, enfin d'alimentation. Bref, du coup, en fait, on peut aujourd'hui, consommer et en fait favoriser des entreprises qui font déjà des gestes et qui ont déjà soit en fait complètement intégré le développement durable, l'environnement dans leur manière de faire ou dans ce qu'ils produisent. Comme tout à l'heure, l'auditrice qui parlait des ports en Bretagne, effectivement, aujourd'hui, on pourrait se faire une différenciation sur les marchés en France, en Europe, en allégeant notre empreinte environnementale sur les produits que nous faisons. Et l'État pourrait en fait être incitatif là-dessus. Dans les années 80, on disait penser global, agir local. Ce sont des micro-gestes, mais en fait, c'est déjà mieux que ne rien faire. Et ça n'empêche pas de réfléchir avec Gamberger à qu'est-ce qu'on doit faire comme économie et sur quelle énergie doit reposer notre consommation.
Merci Frédéric. Merci beaucoup. Daniel Cohen, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric?
Vous
êtes d'accord avec lui?
Bah oui, tout à fait en phase, c'est sûr. Ça fait partie de cet état d'esprit qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'au-delà des effets réels que tous ces petits ruisseaux pourront produire comme grandes rivières, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Il faut que ce soit toujours là, qu'on ne fasse pas comme si c'était un problème qui venait après beaucoup d'autres. Bon, non, c'est crucial. Il y a une course de vitesse qui est engagée pour éviter que la planète devienne une étuve d'ici la fin du siècle, elle devienne irrespirable. Et on la voit. Alors le paradoxe de cette démission du Loup, c'est qu'elle vient après un été où tout le monde a pu sentir à quel point ce monde pouvait devenir irrespirable. Donc oui, des petits gestes certainement, mais une vision globale et une vision qu'on sache décliner. Pour la France, j'ai envie de dire année après année qu'on soit capable de faire un profil d'émissions de CO2 jusqu'à la neutralité en 2050, avec à la clé à chaque fois des investissements. Et l'opposition entre l'économie et l'écologie, elle est vraie en un certain sens, mais superficielle aussi, parce que quand on parle de rénovation des bâtiments, c'est du bien-être pour les gens. Donc c'est changer la civilisation urbaine pour ne pas avoir 2 heures de transport en commun. Pour moi, c'est de la croissance, du bien-être, mais c'est dans la qualité, c'est cette chose-là qui doit maintenant se substituer ou toujours plus, qui en effet a habité nos civilisations.
Un autre Frédéric de Pau nous demande, et il cite Pierre Larouturou, et des climatologues, il propose que la Banque Centrale Européenne prête à taux zéro aux États 1000 milliards d'euros pour financer la transition énergétique dans tous les pays d'Europe. C'est réaliste ou pas?
Oui, enfin bon, d'un point de vue strictement technique, ça, je ne suis pas sûr que ça serait possible, mais en tout cas, la discussion de sortir des déficits, les investissements, enfin de la mesure, parce qu'elle prête déjà aux États à taux zéro, donc sortir de la définition des déficits, les investissements écologiques, comme disait Pascal Canfin, ajouter à la dette financière un autre instrument qui est la dette écologique, qu'on le suive avec la même attention, enfin, je trouve que ce sont des choses tout à fait faisables, enfin des choses, il n'y a pas de contradiction avec l'économie, à considérer que les investissements dans l'écologie, qui ne sont pas mesurables de la même manière, ont une importance au moins aussi considérable que les investissements tout court.
Il faut pas mal de cohérence, c'est-à-dire qu'à la fois il faut que la fiscalité reflète vraiment les dommages, il faut aussi changer le logiciel de raisonnement économique, évidemment, de ceux qui font de l'économie, dans beaucoup de domaines de la société, parce que sinon, il y a une incompréhension. Et donc, et je trouve que là, ce qui est bien, en tout cas, il faut profiter de cette séquence, à la fois parce que bon, des gens reviennent avec des propositions financières, parce que on est en train de discuter du budget européen pour les 10 prochaines années. Il y a peut-être un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait de l'économie, qu'est-ce qu'on fait de la finance au moment où on voit le fonds souverain norvégien dire je ne financerai plus si je veux préserver l'épargne des Norvégiens pour le futur. N'investirai plus dans les activités fossiles. On voit un grand investisseur institutionnel comme BlackRock dire les investissements dans l'énergie fossile, c'est risqué pour le futur. Il y a un ensemble de choses qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que il faut aller plus vite. Et il faut ouvrir ce débat sur quel est le raisonnement économique aujourd'hui qu'il faut tenir. Et on ne peut pas tenir le même qu'au 19e ou 20e siècle. Il a changé.
Est-ce que ce ne sont pas quand même nos dirigeants qui sont les plus frileux dans cette histoire, Laurence Tubiana? C'est vrai que souvent, on attend quand même qu'ils nous parlent tout simplement d'environnement, de transition écologique. Quand ils font des discours, des conférences de presse, c'est toujours le truc qui arrive à la fin et après le reste. Quoi.
Une grande dissonance cognitive quand on dit on voit la catastrophe, mais on dit bon, on verra bien, on sera plus riche dans 10 ans, on verra. On va faire ça après. Oui, c'est vrai, il y a une... C'est pour ça que
on voit que les citoyens sont prêts à réagir.
Et donc, il faut monter la pression citoyenne d'un cran, parce que, encore une fois, et je l'ai vu pendant les accords de Paris, la mobilisation des collectivités locales, des citoyens, ça a permis au gouvernement d'être plus innovant, d'être plus courageux. Quand on regardait avec quoi les gouvernements préparaient leur fameux plan, ce qu'on appelait les contributions nationales, les engagements, ils faisaient ça avec des hypothèses sur la technologie qui datait toujours de 10 ou 15 ans. Par exemple, pratiquement aucun pays n'a intégré dans son raisonnement en 2030, donc c'est dans longtemps, le fait qu'on allait avoir une électrification du transport. Pire, ils pensaient qu'on se transporterait toujours davantage, alors qu'il y a bien, enfin, il y a un moment où c'est évidemment ridicule de passer son temps dans la voiture. Et donc il y a un raisonnement, une connaissance qui manque, je crois, sur cette vision du long terme. Et c'est ça qu'il faut que dans ce débat public, je crois beaucoup débat public, parce que ça permet quand même aux gouvernants de se réajuster. Et là, ça manque. On est sur un débat qui est tellement court terme.
Laurence Tubiana, puisque vous êtes là, on va en profiter pour faire en dire un petit mot justement de l'accord sur le climat. La COP24 aura lieu en Pologne, à Katowice, en décembre prochain, je crois. Cette semaine, déjà, il y a des discussions préparatoires à Bangkok, en Thaïlande. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce qui avait été décidé à Paris?
Alors tout se met en place donc pour le démarrage vraiment de l'application qui est 2020, hein, puisqu'on vit encore sur un autre protocole qui doit s'achever en 2020. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est que tous les pays, il y avait beaucoup de pays qui n'avaient pas de plan climat. Donc pratiquement tous les pays se sont lancés dans l'investissement des renouvelables. On voit aujourd'hui que la Chine est le premier investisseur mondial. Les investissements dans les énergies renouvelables ont dépassé les investissements dans les énergies fossiles en 2017 et en 2018. Donc on a une vraie matérialisation sur ce secteur, qui est probablement celui où ça va le plus vite, parce que tout simplement les coûts de l'énergie solaire en particulier éolienne, ils tombent de jour en jour, dans quelques années. C'est quoi, 2 centimes le kilowattheure au Chili, par exemple, ou au Maroc. Et maintenant, en France, aujourd'hui, je crois, hein, les études montrent que l'énergie solaire est moins chère que l'énergie nucléaire. Donc ça avance. Ça commence à avancer sur l'efficacité énergétique, sur l'électrification des transports. Je suis impressionnée. La Chine a vraiment comme objectif, et c'est une vraie question pour l'Europe, hein, puisqu'elle a perdu la bataille de l'automobile traditionnelle à base d'essence, elle va gagner la bataille électrique. Et la taille des investissements en matière d'électrification de transport en Chine est absolument faramineuse. Et l'Inde se lance de la même façon. L'Inde a décidé qu'en 2030, il n'y aurait plus de véhicules à essence qui seraient vendus nouveaux en Inde. Donc ça va vite.
Voilà.
Ça va vite. Voilà. Ça va vite, mais ça va trop lentement. Ça va vite et ça va trop
Mais quand loin. Même une note optimiste pour terminer, Daniel Cohen, une petite conclusion, vous avez 20 secondes, pas plus. On voit qu'effectivement, capitalisme et écologie ne font pas forcément mauvais ménage, dans le cas de la Chine.
Mais il y a le capitalisme et il y a la démocratie. Et on a besoin de l'une pour réguler l'autre, surtout. Et la démocratie, c'est un engagement citoyen. C'est faire comprendre qu'on ne peut plus gagner d'élection si on n'a pas un programme crédible dans ce domaine. Ce que j'entends, que l'Inde se soit engagée, enfin, je trouve ça formidable, qu'en 2030, il n'y ait plus de voitures à essence.
C'est fini.
Une leçon pour la France. C'est fini et c'est très bien là-dessus.
Voilà. Merci beaucoup Daniel Cohen, merci beaucoup Laurence Tubiana, merci à tous de nous avoir appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, ils se reconnaîtront.